Smail Jergi, bonjour.
Bonjour.
Comment expliquer un tel rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée, qui est un peu la bonne nouvelle et la bonne nouvelle un peu surprise de cette année sur le continent africain?
Effectivement, nous le devons à un Premier ministre visionnaire qui est arrivé au pouvoir en Éthiopie et qui donc a eu le mérite et le courage de casser la glace, si je peux m'exprimer ainsi, et de se déplacer à Asmara pour voir le président Isaias Afwerki. Ce geste formidable a également permis de débloquer les dossiers entre l'Érythrée et la Somalie et entre l'Érythrée et Djibouti dernièrement. Donc effectivement, il y a une dynamique très positive, très encourageante, même si évidemment le dossier somalien probablement ne demandera encore davantage d'efforts.
Pourquoi c'est si difficile de mobiliser aujourd'hui sur la Somalie?
Il y a une certaine fatigue, par exemple, de l'Union européenne, qui jusqu'à présent nous soutenait, nous, à Missom, pour les salaires de nos troupes. Évidemment, avec l'effort exceptionnel qui est demandé actuellement aux Nations Unies en matière de budgétaire et ses réductions, tout le monde essaie de voir comment s'en sortir. S'agissant de la Missom, je crois que nous venons de faire une évaluation de nos forces et nous nous retrouvons quand même avec moins de 50% de disponibilité de nos moyens en matière d'équipement. Comme vous le savez, nous n'avons pas d'hélicoptère. Ce que nous disons, c'est que si on devait comparer ce que la communauté internationale engage en Afghanistan, vraiment pour nous, c'est même pas une goutte d'eau. Ce même élan devrait être étendu à la Somalie pour que réellement on puisse faire aboutir ce processus rapidement. C'est une menace globale, qu'elle soit au Moyen-Orient, en Somalie, elle est la même et on sait les relations que les Shabab ont développées à la fois avec Boko Haram, mais plus inquiétant aujourd'hui, on voit leurs traces même au Mozambique et en Tanzanie.
Au Soudan du Sud, il y a un nouvel accord de paix qui a été signé, c'est pas le premier, et pourtant déjà on voit que la dimension cessez-le-feu n'est pas du tout respecté.
Nous, l'Union africaine, évidemment, nous avons soutenu, nous continuerons à soutenir l'IGAD, qui était la première ligne d'intervention sur cette question. Ça, effectivement, nous resterons très vigilants, parce que c'est le énième accord qu'on a signé, et il ne sera pas du tout accepté cette fois-ci que l'accord de cessation des hostilités soit violé. Je pense que ceux qui iront dans cette direction auront à répondre de leur acte.
Donc ça veut dire des sanctions?
Des sanctions même et plus.
Qu'est-ce qui existe de plus que les sanctions?
Maintenant, on a l'engagement direct des pays voisins, du Soudan et de l'Ouganda. Il me semble que ces personnes pourraient être facilement arrêtées et donc traduites en justice. Même si, évidemment, dans notre démarche, nous essayons toujours de conjuguer réconciliation et justice.
Sur le dossier centrafricain, vous avez eu une forme de victoire lors de cette Assemblée générale des Nations Unies, puisque à nouveau l'initiative africaine a été réaffirmée, du moins par les partenaires, comme la première et la seule pour parler de paix entre le gouvernement et les groupes armés.
Nous avons encore été confortés ici à New York, mais je dis cela pour aussi souligner nos responsabilités et celles du gouvernement, parce qu'il est important que l'on puisse avancer et avancer rapidement. Je crois que les quelques 70 revendications qui ont été faites par les 14 groupes sont assez connues, je dirais même un peu traditionnelles par rapport à ce genre de situation. Et donc nous attendons à ce que le gouvernement puisse réellement donner la direction, répondre. Quelle est l'offre qu'il donne à ces mouvements?
La question du Burundi a été quasiment absente de cette Assemblée générale jusqu'à présent. Il n'y a pas eu d'événement particulier sur le sujet. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de désintérêt ou de lassitude aussi par rapport à la situation dans ce pays?
En fait, on est dans une situation d'un peu d'attente suite à la décision du président Nkurunziza de ne pas se présenter pour un nouveau mandat en 2020. Je crois que c'est une décision qui a été saluée, qui a été bien enregistrée dans les décisions de l'Union africaine et du Conseil de sécurité. Et donc nous nous attendons maintenant à la phase suivante. Nous savons que le président Mkapa a convoqué une nouvelle phase de dialogue. Évidemment, il faudra que ce dialogue soit réellement inclusif. En tous les cas, en tant qu'Union africaine, nous avons pris la décision d'accompagner ce gouvernement jusqu'à l'élection. Donc ce que nous voulons, c'est réellement définir une feuille de route qui puisse inclure tous les éléments pouvons nous amener, si vous voulez, à un couronnement de nos efforts en 2020 avec l'organisation d'élections crédibles, mais au passage qu'on aura traité à la fois d'un dialogue inclusif, mais aussi des conditions qu'il faudra remplir pour qu'on ait un environnement propice. Le retour des réfugiés, je pense que c'est tous ces éléments qu'il faudra traiter. Et évidemment, s'il y a une orientation claire vers cet objectif, je pense que ceux qui ont imposé des sanctions économiques au Burundi pourront être sensibles et donc se projeter déjà dans une posture où ils pourraient lever ces sanctions, ce qui ferait beaucoup de bien à l'économie burundaise. Il y a aussi un espoir qui, faut-il le dire, a été renforcé par la décision du président Nkurunziza de définitivement ne pas se présenter un nouveau mandat en 2020.
C'est aussi ce qu'a dit le président Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Est-ce que cette annonce, l'annonce de la nomination d'un dauphin, est-ce que c'est suffisant pour l'Union africaine ou est-ce que là aussi vous attendez d'autres choses sur ces élections?
Au final, le président Kabila, ce qu'il a promis, il l'a fait. Il a toujours dit qu'il allait respecter la Constitution. C'est un événement extrêmement important que nous apprécions et que nous saluons. Ce qu'il faut maintenant, c'est évidemment, tout en respectant la décision souveraine de la République démocratique du Congo, de vouloir organiser ces élections avec ses propres moyens, nous devons quand même rester à ses côtés et voir qu'est-ce qui peut être fait en tant qu'Union africaine. Je crois que c'est une organisation à laquelle ils appartiennent et je crois que la relation est très bonne. Ce que nous pouvons faire pour mobiliser aussi nos États membres en soutien à ce processus électoral qui doit être évidemment transparent, qui doit être crédible et qui pourra permettre aux nouveaux dirigeants du pays au lendemain du 23 décembre d'hériter d'un pays stable qui va maintenant se tourner vers la question sécuritaire qu'on a à l'est du pays, mais également toutes les questions de développement.
Sur le Mali et sur le Sahel, c'est également un gros dossier qui a été abordé ici. On l'a vu tout récemment, le siège de la force du G5 Sahel a été déplacé. Cette force attend toujours l'essentiel en fait, des fonds en équipement qui a été promis. Est-ce qu'elle a une chance d'être opérationnelle un jour et qu'est-ce qui peut être fait pour l'aider?
Effectivement, tout d'abord, relever avec plaisir la tenue des élections présidentielles et donc féliciter à nouveau le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et surtout, la détermination renouvelée qu'il a affirmée au lendemain de sa réélection de donner une impulsion encore plus grande à la mise en œuvre de l'accord de paix et de travailler avec tous les Maliens également pour s'adresser à tous les défis qui sont ceux du Mali. Que, s'agissant de la force G5, vous savez que l'Union africaine a soutenu le CONOPS de cette force. Nous venons de dépêcher deux experts financiers au siège de la force donc à Nouakchott pour justement crédibiliser ce fonds qui a été créé. Nous pensons que les fonds annoncés à Bruxelles doivent transiter par ce fonds et permettre aux pays du G5 de choisir eux-mêmes les équipements qu'ils pensent importants pour qu'ils puissent travailler. Donc c'est un exercice qui ne semble pas encore connaître une tournure positive. D'ailleurs, ici, même le ministre Le Drian l'a reconnu. Il a dit beaucoup d'annonces qui ont été faites n'ont pas été concrétisées. Mais évidemment, l'opérationnalisation de cette force doit se faire de manière extrêmement professionnelle. On ne peut pas improviser par rapport à un danger aussi connu par les pays de la région et surtout aussi omniprésent. On voit aujourd'hui que non seulement il s'étend du Mali, mais je crois que le Burkina connaît vraiment des défis très importants en matière sécuritaire au nord du pays et à l'est.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement en déployant cette force, en commençant les actions sans ce matériel, que cette force se retrouve finalement être prise pour cible et que les troupes se découragent vite dans un contexte où on voit déjà que la MINUSMA, qui est censée être mieux équipée, elle-même est victime d'attaques
Évidemment, moi je ne suis pas expert militaire, mais il va sans dire que si ils n'ont pas les conditions minimales pour réellement s'engager. Et le nouveau siège est en construction. On a tiré les leçons de ce qui s'est passé à Savaré. Et donc, il est important que cette force réellement ait les moyens qui lui ont été annoncés et qu'elle ait le minimum pour conduire ces opérations. C'est vrai qu'ils ont fait quelques opérations et que le nouveau général qui commande nous a annoncé ici qu'ils allaient reprendre ces activités. En tous les cas, en tant qu'Union africaine, nous sommes prêts à soutenir, à aussi plaider sa cause auprès d'autres partenaires. Et nous sommes heureux de constater que la Chine également nous a déclaré, quand nous étions à Pékin, qu'ils allaient soutenir le G5 Sahel. Et ma foi, nous pourrons nous-mêmes nous mobiliser davantage pour les aider davantage. Nous espérons que cet élément soit compris par tout le monde, et surtout les partenaires et les amis du Sahel et du G5, pour que, effectivement, les pays concernés se sentent confortés et qu'ils puissent agir à l'unisson face à ce danger qui ne fait que, finalement, ajouter aux défis de la région.
Smail Chaghi, merci.
Merci infiniment.